Vous écoutez, on lit pour vous.
Quelle place pour la patience dans un monde pressé. Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 13 août 2025 dans le... Dans un monde pressé, quelle place tient la patience? Cette dernière a occupé les philosophes de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, mais paraît de plus en plus rare à notre époque face à ces urgences. Réflexion avec Emmanuel Housset, professeur de philosophie à l'université de Caen, de l'article « La douceur de la patience », paru dans la Revue d'éthique et de théologie morale en 2008 et lauréat du Grand Prix de philosophie de l'Académie française pour l'ensemble de son œuvre. Commençons par une question simple en apparence, mais complexe en réalité. Qu'est-ce que la patience ? La patience, c'est d'abord la capacité à donner son temps. Nous avons beaucoup de mal à le faire parce que nous avons du mal à sortir de nous-mêmes. Nous nous enfermons facilement dans nos préoccupations et dans nos objectifs. Pourtant, dans mon esprit, la patience est la capacité à être. C'est le fait de ne pas pouvoir exiger d'autrui qu'il réponde immédiatement à mes attentes, que ce soit finalement dans l'amitié, dans la vie de famille ou dans les relations en général. Être patient, c'est aussi être capable d'endurer les autres, ce qui n'est jamais. Mais, au-delà de ça, c'est aussi la capacité de se dire que l'autre a son temps propre et que je ne peux pas forcer ce temps-là si je l'estime et si je l'aime. La patience représente aussi la faculté d'attendre et de tendre vers un but incertain, intangible, qui peut que nous nous en approchons, mais qui oriente la boussole de nos vies. La vraie patience, en ce sens, c'est la capacité de ne pas perdre de vue le fait qu'en dépit des difficultés, en dépit des tyrannies, par exemple, il y a un horizon plus lointain de la paix, de la justice, de la vérité. Comment la signification de la patience a-t-elle évolué au fil de l'histoire ? La patience représentait la racine de toutes les vertus jusqu'à la toute fin de la philosophie médiévale. Dans la pensée grecque, elle n'était pas simplement une des vertus, mais la condition de toutes les autres. Elle signifiait la capacité à endurer le monde et le temps. L'Odyssée d'Homère peut se lire comme une ode à la patience d'Ulysse et de Pénélope face à l'adversité qui sépare les deux époux. À Rome, les stoïciens ont aussi élevé la patience au rang de vertu suprême. De Sénèque est celle de l'homme patient, semblable au rocher qui subit l'assaut des vagues sans broncher. Dans la Bible aussi, la patience occupe une importance prépondérante. La figure de Job, par exemple, est en quelque sorte l'incarnation de la patience. La patience paraît être une condition du salut. Il faut endurer les souffrances terrestres pour accéder au ciel. S'agit-il d'une patience plus docile, contrairement à la patience de la philosophie antique plus proche de la sagesse ? Dans le christianisme, on n'est pas simplement l'homme impassible, c'est-à-dire celui qui serait capable de tout subir et de tout supporter. Devenir patient, c'est surtout ne pas perdre espoir. Il y a, c'est vrai, la souffrance à endurer, mais aussi la manière dont nous accueillons cette souffrance pour éviter qu'elle nous empêche de nous déterminer totalement. Comment la perception de la patience connaît-elle un renversement radical à la fin du Moyen-Âge ? Ce changement de perspective est très lié au changement dans la compréhension du monde et dans la compréhension de l'homme amorcé par les Lumières. Le tournant, parce que le monde devient un vis-à-vis qu'il faut maîtriser, alors qu'auparavant, c'était une force qui imposait sa propre cadence à l'humanité. Nous devenons individuellement et collectivement responsables du sens du monde, en quelque sorte. La patience ne reste pas une capacité à attendre le développement des choses, mais aussi une capacité à vouloir. L'homme n'est plus celui qui se définit par la place qu'il occupe dans la nature, mais devient celui qui se définit par sa volonté et par sa capacité à se déterminer lui-même. Une tâche envers soi-même, qui est parfois sans indulgence. Nous pouvons devenir extrêmement exigeants par rapport à nous-mêmes. Dès que nous subissons un échec, nous tentons systématiquement de le surmonter sans parfois nous donner le temps. Ce changement introduit une certaine impatience dans la La patience a donc longtemps occupé les philosophes et chaque grande religion lui a accordé une place importante. Cependant, elle constitue une denrée plutôt rare de nos jours. Pourquoi, à votre avis ? Sans vouloir donner une signification trop morale au terme, je pense que c'est d'égoïsme. Ça ne veut pas dire que nous n'aimons pas les autres, ni que nous n'avons pas de rapport à autrui, mais que nous sommes toujours un peu centrés uniquement sur soi-même. La générosité, ça ne consiste pas à donner des biens matériels, mais bien d'abord à donner de soi. Je pense que c'est ça la sagesse, finalement. Les communications et les transports ont atteint des vitesses inégalées dans l'histoire de l'humanité, et pourtant, notre époque semble cultiver l'impatience. Comment expliquer ce paradoxe ? Je pense que l'impatience est un luxe et que nous nous toujours très vite au luxe. Quand nous tombons en panne, nous ne nous étonnons même plus qu'un dépanneur arrive dans la demi-heure qui suit. C'est devenu la norme. Et c'est plutôt quand le dépanneur accuse 10 minutes de retard que nous jugeons la situation anormale. Nous ne savons plus attendre. La patience peut être bonne par rapport aux injustices, par exemple. Elle peut aussi être dangereuse quand elle exprime l'incapacité à différer des besoins qui ne sont pas essentiels. C'est pour ça qu'il y a un côté un peu puéril dans notre impatience contemporaine, à savoir que nous voulons un peu comme l'exige un enfant. Quelles sont les conséquences de notre impatience contemporaine ? Je pense que l'humanité a du mal à s'aimer elle-même dans ce monde. Elle aime des images de lui-même, mais elle ne s'aime pas toujours véritablement elle-même. Elle se demande ce qu'elle doit faire exactement de l'existence et quels sont les buts les plus importants de celle-ci. Nous nous fixons des objectifs finis, devenir riche ou puissant, au point d'en oublier les buts qui ne sont pas exactement de l'ordre du temps, par exemple la recherche de la sagesse, la recherche du souci d'autrui, si t'es accepté, aussi les rencontres inattendues. L'impatience a-t-elle aussi des répercussions à l'échelle de la société ? Oui, parce que nous avons beaucoup de mal à accepter la lenteur. Cela peut produire de l'exclusion, par exemple envers les personnes âgées. Dialoguer tout de suite, immédiatement, sans par exemple attendre les mots de la personne âgée, ni respecter sa capacité à s'exprimer ou à rester en silence avec elle, sans vouloir à tout prix qu'il y ait un échange d'idées ou d'informations. Cette exclusion peut toucher tous ceux et celles au rythme imposé. C'est parfois extrêmement difficile d'accepter qu'un enfant ait besoin de plus de temps qu'un autre pour apprendre. Un enfant qui aurait tout simplement eu besoin d'un an ou deux ans de plus pour apprendre va être écarté du système scolaire. C'est aussi une forme d'exclusion suscitée par l'impatience. Cela se traduit sur le plan politique, dans la mesure où l'exigence d'efficacité fait qu'on ne favorise que le court terme, même si les idéaux de justice, de liberté, d'égalité demandent du temps. La démocratie aussi demande du temps et des résultats sur le temps long. Porté vers des régimes plus autoritaires qui ne s'encombrent pas du temps de discussion nécessaire pour parvenir à un consensus. C'était « Quelle place pour la patience dans un monde pressé ?» Un texte de Sébastien Tanguay, paru le 13 août 2025 dans Le Devoir.
Qui garde l'animal en cas de séparation ? Un texte de maître Sophie Gaillard et maître Michael Lessard, paru le 21 mai dans La Presse. Quel conjoint ou conjointe peut garder l'animal en cas de séparation? Cette question occupe de plus en plus nos tribunaux et un projet de loi à l'étude à Québec pourrait changer la donne. Plus de la moitié des foyers québécois comprennent un animal de compagnie. Des liens d'attachement forts se tissent entre les membres d'un couple et leur animal, généralement considéré comme un membre de la famille à part entière. En se séparant d'un conjoint ou d'une conjointe, ce n'est pas le chat ou le chien que l'on veut quitter. Pourtant, les tribunaux québécois ne semblent pas tenir compte de la complexité de la situation de l'animal de la famille ni de ses intérêts. Qui prendra le mieux soin de l'animal ? Qui répondra à ses différents besoins? À qui l'animal est-il le plus attaché? Toutes ces questions sont occultées par une seule, celle de déterminer quel membre du couple détient un titre de propriété sur l'animal. C'est donc, en règle générale, le conjoint ou la conjointe qui a acquis l'animal, c'est-à-dire qui en a fait l'achat ou qui a signé le contrat d'adoption, qui est en droit d'en revendiquer la propriété au moment de la séparation. En ne s'intéressant qu'au titre de propriété, cette pratique judiciaire ne tient pas compte de la sensibilité des animaux ni de leur bien-être. Or, depuis 2015, la législation québécoise reconnaît explicitement que les animaux sont des êtres doués de sensibilité et que nous avons une responsabilité collective de veiller à leur bien-être. Contexte particulier. Se restreindre à la question de la propriété peut aussi être délétère pour les autres membres de la famille. Par exemple, il pourrait être bénéfique pour un enfant de maintenir un lien avec l'animal de la famille, notamment en permettant que ce dernier suive l'animal dans le cadre d'une garde partagée. L'animal offre alors un point de repère et un soutien affectif dans un contexte de séparation. Dans un autre registre, il faudrait également éviter que l'animal soit utilisé dans une dynamique de violence conjugale. On voit trop souvent des conjoints contrôlants intimider leur conjointe en menaçant ou en blessant l'animal de la famille. Si le conjoint contrôlant détient le titre de propriété sur l'animal, il devient plus difficile pour le tribunal de protéger la victime des différentes stratégies de contrôle. Le fait que ce soit le conjoint violent qui détienne le titre de propriété pourrait même dissuader des victimes de quitter une situation d'abus, de peur de ne plus jamais revoir l'animal auquel elles sont si attachées. Tous ces problèmes pourraient trouver une solution grâce au projet de loi 56, présentement à l'étude à l'Assemblée nationale du Québec. Ce projet de loi réforme le droit de la famille, principalement en modifiant le traitement des biens utilisés par la famille au moment de la séparation. Il offre le parfait véhicule législatif pour repenser le traitement de l'animal de la famille en cas de séparation. À notre avis, les parlementaires devraient y ajouter une disposition qui permet au juge d'attribuer la propriété de l'animal en tenant compte de sa sensibilité, de ses intérêts et de façon à assurer son bien-être. Le Québec ferait alors partie d'un mouvement législatif qui prend de plus en plus d'ampleur en Occident. Nous pensons notamment à la Colombie-Britannique, la Suisse, l'Espagne, l'Alaska, la Californie, l'Illinois, le Maine, le New Hampshire et New York, qui prévoient explicitement dans leurs lois des dispositions concernant la propriété ou la garde d'un animal en contexte de séparation conjugale. Le Québec est mûr pour se joindre à ce mouvement en faveur du bien-être animal. Nos parlementaires vont-ils et elles en saisir l'occasion? C'était « Qui garde l'animal en cas de séparation? » un texte de maître Sophie Gaillard et maître Michael Lessard, paru le 21 mai dans La Presse.
Polar et littérature de l'imaginaire, enquêtes éprouvantes. Des propositions de lecture de Chantal Fontaine, paru dans la revue Les Libraires. Retour attendu de Javier Castillo avec Le jeu de l'âme chez Albin Michel. On reconnaît Miran Triggs, maintenant journaliste, alors qu'elle reçoit la photo d'une jeune fille ligotée, datée de 9 ans auparavant. Au même moment, le cadavre d'une adolescente crucifiée est repéré dans une église. Miran fait appel à son ancien prof, Jim Schmoher, pour l'aider à faire la lumière sur ces événements peut-être reliés. Seconde aventure également pour Christopher Bark et son équipe dans « Cette ombre derrière toi » chez Saint-Jean, Dana Jansen. On leur confie une enquête non résolue à propos d'une femme disparue et retrouvée dans un baril. Bien vite, Bark s'aperçoit que la collègue de la victime a elle aussi reçu des menaces à l'époque et se demande si le tueur rôde encore. Washington Poe, le personnage récurrent de M.W. Craven dans Le guérisseur chez L'Archipel, est confronté à plusieurs victimes qui n'ont apparemment aucun rapport entre elles et dont les doigts sont disséminés ici et là. Sa perspicacité lui sera nécessaire à la résolution de l'énigme. Dans « Le silence » chez Actes Sud, Irsa Sigurdardottir met encore de l'avant la psychologue pour enfants Freyja et l'enquêteur Huldar pour éclaircir les arcanes entourant la mort d'une femme étêtée et d'une jeune fille emportée par la rougeole, le tout sans doute en lien avec la disparition d'un bébé il y a plus de 10 ans. Du pain sur la planche pour résoudre cette 6e enquête. c'était la rentrée littéraire 2024, polar et littérature de l'imaginaire, enquêtes éprouvantes. Des propositions de lecture de Chantal Fontaine, parues le 3 septembre 2024 dans la revue Les Libraires.
Équité salariale, les femmes méritent mieux. Un éditorial signé Joanne Lauzon paru dans le magazine Châtelaine. Le marché du travail se moque encore des femmes, surtout celles que l'on juge trop vieilles. Que vaut le travail des femmes? Bien peu, si l'on en croit toutes les statistiques portant sur l'écart de revenus qui tarde à être comblé entre les hommes et nous. Petit rappel. Cette différence reste de 17% au pays, selon l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, qui place le Canada au 38e rang des 45 États analysés. Loin derrière la Belgique, qui trône au sommet du classement, avec un petit écart de 1%. Du premier emploi d'été jusqu'au dernier poste en fin de carrière, nous traînons ce manque à gagner comme de vieilles casseroles. À la retraite, nous arrivons moins nantis que nos conjoints, nos frères et nos collègues masculins, avec seulement 80% du pactole amassé par ces derniers. Et, faut-il le souligner, l'écart salarial est pire pour les personnes aux prises avec des obstacles multiples, notamment les femmes racisées, autochtones et handicapées, spécifie la Fondation canadienne des femmes. J'ai déjà écrit sur le sujet. Mais voilà, je ne me fais pas à l'idée. Je m'indigne encore et toujours devant cette situation. Que pouvons-nous faire pour contrer cette injustice? Sinon, bien sûr, mieux négocier nos salaires sur une base individuelle. Il faut remettre l'équité salariale à l'ordre du jour pour qu'elle s'applique partout. Les entreprises doivent faire preuve de transparence en matière de rémunération en dévoilant, par exemple, les échelles de traitement qu'elles offrent à leur personnel. Elles auraient avantage aussi à valoriser les contributions des femmes qui, doit-on le préciser, sont souvent invisibilisées. Sur le marché du travail, nous sommes perdants tout le long de notre carrière. La journaliste Vanessa Fontaine a fait enquête, à lire dans notre numéro automne 2023, afin de savoir pourquoi il est si difficile pour une quinquagénaire de trouver un emploi, et ce, malgré la pénurie de main-d'œuvre qui persiste au Québec comme ailleurs. Le constat de l'une des expertes interviewées fait frémir. Je cite ici Ellie Berger, de l'Université de Nipissing en Ontario, gérontologue et autrice de l'essai « Ageism at Work », presse de l'Université de Toronto. Une femme commence à perdre de sa valeur sur le marché du travail dès la quarantaine. On ressent même une pression dès la fin de la trentaine, et surtout à l'approche de la ménopause. Lorsque nous ne pouvons plus enfanter, tout à coup, on nous considère comme vieilles. Professionnellement, la période optimale est donc très courte pour les femmes. Affligeant, non? L'âgisme affecte davantage les salariés féminines que leurs collègues masculins, et ce, dès la quarantaine. Pas étonnant que l'Organisation des Nations Unies le qualifie de fléau mondial dans un rapport dévoilé en 2021. Une personne sur deux aurait des attitudes âgistes. « Tasse-toi, ma tante », résonne encore trop dans les milieux de travail. Les préjugés ont tellement la vie dure. Les études scientifiques le prouvent pourtant. L'intelligence, la motivation et la faculté d'apprendre ne déclinent pas avec l'âge, comme le rapporte ma collègue dans son article. Le jugement, de même que la capacité à prendre des décisions et à gérer des conflits, s'améliore même au fil du temps. Alors, pourquoi les sociétés voudraient-elles se passer des femmes? c'était « Équité salariale, les femmes méritent mieux », un éditorial signé Joanne Lauzon paru le 30 août 2023 dans le magazine Châtelaine.
Les prix d'interprétation non genrés et l'apocalypse annoncée, une chronique de Samuel Larochelle, parue le 31 août dans le magazine Fugue. Le 17 septembre prochain, le Gala des prix Gémeaux remettra pour la première fois des prix d'interprétation sans distinction du genre. La nouvelle a fait grand bruit durant les derniers mois. À lire certaines chroniques et autres commentaires, on pourrait croire que le monde va s'écrouler sous le poids d'un lobby ultra-minoritaire et qu'on s'apprête à dépasser les limites de la décence. Non seulement je n'en crois rien, mais il m'apparaît clair que les catégories genrées n'auraient jamais dû exister. Selon Statistique Canada, seulement 0,14% des citoyens et citoyennes se définissent comme non-binaires. Admettons que l'une de ces personnes devienne une interprète de grand talent et qu'elle mérite une nomination pour sa performance dans une série ou un film. Que faire? L'ignorer? Lui offrir une nomination dans la catégorie correspondant au sexe qui lui a été attribué à la naissance, même si elle s'affiche ouvertement non-genrée? Et si la solution était simplement de ne pas classer les interprètes en fonction de leur genre? Plusieurs individus s'insurgent contre la volonté de changer une tradition pour des exceptions. À mes yeux, c'est plutôt l'occasion de réaliser que le concept est inutile depuis toujours. L'interprétation n'est pas un sport. Contrairement aux adeptes du 100 mètres, du tennis ou du hockey, qui doivent être séparés lors des compétitions en raison des capacités biologiques propres au genre, les interprètes utilisent leurs émotions, leur voix, leur âme et leur non-verbal pour donner vie à leur personnage. Cela n'a rien à voir avec le genre. En télé et au cinéma, personne n'a réclamé une division des genres dans les catégories de la meilleure réalisation, du meilleur scénario ou du meilleur montage. Est-ce parce que ce sont des métiers derrière la caméra, alors que les interprètes évoluent devant la lentille? Les esprits qui pensent ainsi n'ont-ils jamais réalisé que les prix soulignant l'excellence en animation télé n'ont jamais été genrés? Pourquoi ne montent-ils pas aux barricades pour exiger des catégories de meilleurs animateurs et meilleures animatrices? Est-ce parce que cela ferait doubler le nombre de trophées, étant donné que les prix en animation sont divisés en plusieurs créneaux, talk-shows et émissions de variété, émissions de sport, émissions de service, etc.? Mais alors, qu'en est-il de l'humour? Les apôtres des catégories genrées auraient dû faire résonner leur voix depuis des années en constatant que le Gala des Oliviers n'a jamais genré ses récompenses. Au fond, les galas récompensant l'interprétation ne font que rattraper le gros bon sens. Les Grammys ont mis de côté la vision genrée en 2012. Les MTV Video Music Awards ont emboîté le pas 5 ans plus tard. La Berlinale décerne des trophées sans genre depuis 2021. Depuis, les Brit Awards, les Spirit Awards et les prix Écran canadien ont pris la même direction. Bref, quiconque parle d'une mode passagère se met le doigt dans l'œil. En réponse au brouhaha créé par l'annonce des catégories d'interprétation non genrées en décembre 2022, Maya Gour-Mercado, directrice générale de l'Académie des prix Gémeaux, affirmait ceci à la presse. « C'est dans l'air du temps, mais je n'ai pas l'impression que c'est juste une mode. C'est une chose dont on parle depuis plusieurs années, vers laquelle on avance inexorablement. Maintenant, on souhaite que la disque se mette à jour en imitant les événements qui ont entrepris le virage. Questionnée à ce sujet, Julie Gardiépi, productrice exécutive des galas de la disque, a affirmé que la parité au sein de l'industrie musicale est encore bien fragile. Son argument fait écho à la crainte de plusieurs personnes qui voient les catégories non genrées comme une façon d'invisibiliser les femmes. À cela, on peut répondre que les galas au cinéma et à la télévision sont le dernier maillon d'une longue chaîne qui part de la création avant de passer par le financement, la production et la diffusion. Pour avoir des femmes en nomination, donnons-leur accès autant qu'aux hommes à des rôles substantiels qui leur permettront de nous éblouir et de récolter des distinctions lors des galas de récompense. Cela dit, ne nous cachons pas la tête sous le sable. Le milieu des arts est sexiste, tout comme la société. Aux Oscars, seules 3 femmes ont remporté le prix de la meilleure réalisation pour un long métrage. Chloé Zhao, Jane Campion et Catherine Bigelow. Bien sûr, on peut s'arrêter à la surreprésentation des hommes dans cette catégorie non genrée, mais on peut aussi aller plus loin et favoriser la diversité quand vient le temps de choisir qui réalisera quel film, tant pour les œuvres à petit et à grand budget. Si on veut faire un parallèle avec le monde de la musique, faisons jouer la musique des femmes dans les radios, engageons-les comme tête d'affiche des festivals et mettons-les en lumière autant qu'on le fait avec les hommes. Enfin, si vous affirmez que telle actrice et tel acteur mériteraient de gagner cette année, mais que le trophée non genré nous empêchera de célébrer les deux, dites-vous que tous ou toutes les finalistes des catégories genrées auraient aimé gagner également et que le public aura toujours des préférences, peu importe le genre, et des déceptions face aux choix finaux. C'était les prix d'interprétation non genrée et l'apocalypse annoncée, une chronique de Samuel Larochelle parue le 31 août 2023 dans le magazine Fugue.